large. Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jeanne Serrault, on se retrouve pour parler de cette fête de la nature qui aura lieu donc du 22 au 26 mai et particulièrement à Vevey avec ce sentier didactique dont on va parler maintenant. Vous m'avez donné rendez-vous proche d'un cimetière et d'une église, l'église Saint-Martin. Pourquoi ?
Pourquoi ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait que j'ai choisi ce lieu. Le premier, c'est la vue,
voilà, qui est vraiment assez
impressionnante. Le deuxième, c'est qu'on arrive à cet endroit par le chemin de l'espérance. Et je pense que l'espérance, c'est peut-être le mot qui qualifie le mieux les gens qui travaillent dans la durabilité et toutes les personnes qui s'investissent dans la durabilité.
Donc on arrive au cimetière par le chemin de l'espérance, c'est bien.
C'est beau, c'est beau.
C'est pas mal.
Et puis l'autre aspect, les deux autres aspects, en fait, c'est qu'on est juste à côté des serres ici, des espaces verts, et qui notamment vendent des plantons. Et c'est quelque chose qu'on a organisé récemment, le marché aux plantons, etc. Donc je trouvais ça joli de les mettre en avant en passant. Et enfin, l'un des panneaux du sentier didactique se trouve au cimetière parce que c'est un vrai havre de biodiversité, en fait.
Alors ça, on va en parler, hein. C'est étonnant, le cimetière comme lieu d'écologie, avec évidemment le respect de ceux qui y reposent, bien sûr, on le verra. Il y a 11 panneaux à travers la ville, hein. On n'est pas que dans les espaces verts, c'est à travers la ville. Avec une promenade, évidemment,
hein,
même plusieurs, parce qu'on peut faire le circuit court, moyen, long.
Tout à fait.
Le circuit long, c'est combien de temps ?
Je pense qu'on peut le faire en 2 heures,
voilà,
2h30 avec un bon rythme.
Plutôt un bon rythme.
Moi, j'aurais dit plutôt un bon rythme parce qu'il y a quand même des endroits qui montent un petit peu, etc.
Ça monte vers Gillamont.
Voilà, donc si on prend le temps, etc., je pense que oui, en 2h30, on est bien.
Bon, on va s'intéresser à quelques-uns de ces panneaux pour voir quels sont les thèmes qu'on met en avant.
Avec
plaisir. Si on devait avoir une vision générale, une vision large, si je dis, c'est dire aux citadins, la nature, elle est aussi chez vous, regardez-la, voilà ce qu'on peut vous en dire, c'est un peu ça ?
Alors c'est ça, et puis c'est aussi, je pense, mettre en avant peut-être la résilience de la nature aussi, même dans les espaces urbains. On le sait, l'adaptation au changement climatique, ça passe aussi par une adaptation de la nature, parce que le but, c'est pas de pouvoir faire pousser du gingembre sous nos latitudes d'ici quelques années. Donc voilà, là on essaye de montrer que on est capable de s'adapter, que la nature s'adapte, et c'est vraiment ce qu'on a envie de montrer, de mettre en avant.
Souvent on a peur quand la nature s'adapte, hein. Ça veut dire que alors peut-être plus à la campagne, mais que des habitudes d'agriculture vont devoir changer parce que les plantes qu'on a l'habitude de faire pousser ne vont plus pousser ou vont du moins avoir des difficultés à le faire. Elles seront donc remplacées ou grand remplacées, comme on dit aujourd'hui, par d'autres plantes. En ville, on a ces enjeux aussi, les plantes invasives, les choses comme ça.
Alors tout à fait, il y a énormément en fait de problématiques qu'on rencontre en ville. Je pense que peut-être celui qu'on connaît le plus, c'est celui des îlots de chaleur qui est lié à une présence d'asphalte absolument énorme, et du coup a fortiori les îlots de fraîcheur sont probablement l'un des grands enjeux.
C'est un enjeu majeur, moi c'est à ça que j'ai réfléchi en venant vous voir, en me disant bon, Vevey, petite ville, la forêt juste à côté, est-ce que l'enjeu mérite qu'on insiste autant sur la biodiversité alors que la nature est toute proche? Mais les îlots de chaleur, là évidemment c'est un problème que toutes les villes, quelle que soit leur taille, connaissent.
Exactement,
et avoir de l'espace vert, non pas seulement à la frontière de la commune, mais bien dans la commune, c'est essentiel.
Oui, tout à fait. Et puis je pense que le parcours didactique, on l'a aussi pensé pour ça. En fait, on l'a pensé pour être presque un parcours fraîcheur, en tout cas c'est l'objectif, avec une grande partie de la balade qui se fait sous le couvert des arbres, etc. Donc l'idée, c'est aussi de permettre aux personnes en cas de forte chaleur d'aller se promener dans des endroits un peu frais.
Il y a tout un parcours, je le disais. Ça commence par les potagers urbains.
Oui.
Alors on a beaucoup connu ensuite, je ne sais pas si en France c'est la même chose, mais les jardins communautaires, hein, en général,
oui,
c'était dans les extérieurs des villes. Parfois les extérieurs un peu moches d'ailleurs, pas toujours le cas, hein, et puis les gens qui n'avaient pas les moyens d'avoir un jardin pouvaient y louer une petite parcelle. C'est encore très présent dans pas mal de villes de Suisse. Le potager urbain, c'est autre chose, hein, c'est quelque chose qui est à la mode maintenant, c'est de voilà, c'est presque comme en temps de guerre. Chaque bout de verdure permet de faire pousser quelque chose, des tomates cerises. Hein.
Il y a ça, et puis je pense qu'il y a une vraie valorisation des circuits courts. L'objectif, c'est d'avoir une production, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, juste de l'ornement, c'est aussi super d'avoir un retour un peu à la terre, au fait de faire quelque chose quand on n'a pas forcément de jardin et qu'on vit en appartement. Et c'est vrai que les potagers urbains permettent vraiment, je pense, ça.
Ça implique une responsabilité des citoyens qui s'y engagent, parce que voilà, moi je peux imaginer l'enthousiasme. Ah oui, super, je vais aller dans mon bac et je vais planter, je vais récolter, etc. Et puis la vie étant ce qu'elle est, on abandonne un petit peu la mission. Il y a une responsabilisation ou pas?
Oui, alors quand même, il y a un entretien qui est demandé, etc. Les gens adhèrent. Voilà, il y a des petits contrats, etc. Donc oui, il y a quand même une responsabilité. Et puis en fait, les potagers sont tellement demandés que les gens qui les ont les entretiennent naturellement.
Ouais, il faut pas perdre la place.
Exactement. Donc on a cette chance d'avoir des gens qui s'investissent réellement, qui font les choses. Et puis ben, vous pourrez le voir si vous découvrez le parcours didactique. Mais la rue du Nord, par exemple, est très emblématique de ça. Les potagers sont très jolis et très entretenus. Donc
il y a un élément qu'on retrouve dans plusieurs de ces panneaux didactique et qui est fondamental hein, dans votre démarche, c'est l'aspect social. Hein, c'est que la nature, outre le fait qu'elle nous aide à respirer et à vivre, elle a aussi le mérite, et c'est particulièrement le cas de ces jardins, de ces petits potagers, c'est de créer du lien social.
De créer du lien, tout à fait. Je pense que c'est aussi un des enjeux au final de la durabilité par extension, parce qu'on a envie de permettre à tout le monde de s'investir dans des choses qui leur tiennent à cœur, de créer une société qui s'entraide, etc. Parce que voilà, on arrive aussi à des moments où on a besoin de partager, on a besoin de recréer du lien, je pense vraiment.
J'ai vu des choses, c'est très bien fait dans ces panneaux hein, que j'ai vu, moi, parce que vous me les avez envoyés en version numérique, j'ai pas fait la promenade entière. En avant-première, j'en suis très flatté. Mais il n'y a pas toujours, justement. Je pensais qu'il y avait toujours, parce qu'il y a pas mal au début, et puis après, c'est pas toujours le cas, mais fonction environnementale ou écologique, fonction sociale, fonction de durabilité, ça met les points sur les i, en somme. Hein.
Tout à fait. Je pense que l'objectif de ces petits titres qui ont été, du coup, les fonctions des éléments qu'on décide de mettre en avant, ils ont aussi, effectivement, cet objectif de montrer qu'une forêt, ça a une fonction sociale, un potager, ça a une fonction sociale, tout comme un cimetière, mais pour autant, ils n'ont pas les mêmes fonctions, et c'est ce qu'on essaie de montrer.
Il y a les animaux. On sait que là, c'est encore une fois, je disais contre-intuitif dans la première partie, c'est assez contre-intuitif aussi de se dire que le monde animal est encore la possibilité de survivre en ville. On entend les oiseaux hein, dans cette interview. On a un peu l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir survivre dans notre univers, et encore pas bien. C'est pas le cas. Hein. Il peut y avoir des mammifères, y compris.
Tout à fait. Non, c'est pas le cas. Il y a en fait de la petite faune qu'on voit peut-être moins, pas que de la faune d'ailleurs, il y a beaucoup de flore aussi évidemment, mais on a décidé de mettre en valeur aussi les endroits où cette petite faune, donc on parle autant d'insectes que de renards ou de blaireaux, peut se faire un chemin en ville, ou en tout cas dans un environnement urbain, parce que voilà, on n'a pas non plus des blaireaux place Canavin, mais je pense vraiment que c'est juste qu'on ne l'observe plus, qu'on ne prend pas le temps de l'observer, et le but de ce parcours, c'est de permettre ça, de repermettre ça.
Mais y compris des passages de faune, hein, c'est quelque chose qu'on imagine aujourd'hui. On sait qu'il y a tout un dossier en Suisse romande, hein, en tout cas à l'échelle du canton de Vaud, qui a été discuté politiquement pour avoir des passages de faune. Quand il y a des autoroutes, il faut leur donner un moyen de passer en dessous, etc. J'imaginais pas ça à l'échelle d'une ville. Il y a un passage de faune à Vevey.
Il y a des corridors, ouais. Alors, on a la chance à Vevey, comme vous l'avez dit d'ailleurs, d'avoir la nature assez proche. Mmh. On a la forêt des Bosquets, on a les Taux Verts, etc. Donc, il y avait des corridors de faune qui se faisaient naturellement, mais grâce au travail aussi aussi de, ben, toujours de Parc et Jardin qui font énormément de choses. Ils ont mis en place d'autres petits corridors, des manières pour des petits animaux de se faufiler, de passer, de ne pas se faire écraser par les voitures.
C'est quoi ? C'est le temps ? C'est l'usage ?
Alors c'est l'usage et puis c'est aussi simplement qu'un animal a tendance à se dire tiens, si je me fais pas écraser c'est pas mal. Donc voilà, ils le font et on a pu observer des traces de renards. Voilà, on essaye de permettre au moins au maximum de faune de ne pas se faire écraser, c'est déjà pas mal.
Il y a beaucoup d'insistance sur l'importance des insectes, hein, et moi je me suis dit en voyant ça, il faut qu'on change complètement notre paradigme de rapport à la nature, hein, parce qu'on peut être j'habite à la campagne, mais je suis un citadin dans le fond, j'ai peu de liens à part mon chien qui m'oblige à aller dans la nature, j'ai peu de liens avec la nature, et on peut se dire assez facilement, bah, les oiseaux c'est cool mais les insectes quand même c'est moins cool. On peut se dire la forêt c'est bien mais si elle est débroussaillée c'est mieux. Non, ça marche pas comme ça, hein. Il faut voir les choses comme un tout.
Exactement. Et ça me fait penser qu'on organise assez régulièrement par exemple des ateliers de permaculture, donc qui vont essayer de recréer la manière dont la nature a de s'organiser naturellement, parce que on ne le répétera jamais assez, mais c'est pas la nature qui a besoin. Voilà, c'est pas la nature qui a besoin de nous, hein. C'est vraiment l'inverse. Et du coup, les insectes, fondamental, que ce soit les abeilles. D'ailleurs, on a des jolies ruches dans le cimetière juste à côté. Et tous les insectes finalement ont une fonction et nous permettent, ne serait-ce que de décomposer, par exemple, des morceaux d'arbres, des choses comme ça. Donc, on a vraiment besoin de les conserver, de les aider à rester parmi nous, quoi.
Et les oiseaux, vous avez fait un panneau sur les hirondelles, hein, qui reviennent, qui pourraient revenir pour de vrai, là, et nous rapporter le printemps, parce que ça commence à bien faire.
Ce serait sympa, oui.
Encore que le jour où passera cette émission, j'espère que le printemps sera vraiment installé, mais là, on est à la lisière du froid et du chaud. Les hirondelles, c'est joli, c'est cool, mais ça niche, ça fait de la saleté, etc. Et là aussi, on a un rapport qui est biaisé à la nature, hein. On a l'impression que la nature, ça doit être comme on veut, ben non.
Que ça doit être contrôlé, que ça doit être propre, et puis propre selon notre définition de ce qui est propre ou non. C'est vrai que les hirondelles, les nids d'hirondelles sont aujourd'hui protégés par une loi pour éviter la destruction des nids.
Y compris s'ils sont vides, hein. C'est très important.
Y compris s'ils sont vides, c'est très important, et je pense que c'est un message vraiment à faire passer. Ne détruisons pas les nids d'hirondelles, même quand ils paraissent inoccupés, parce que les hirondelles ont cette faculté de revenir tous les ans dans le même nid, de fonder des familles tous les ans dans le même nid. Donc c'est vraiment très très important de les garder, et c'est vrai que nos constructions aujourd'hui ne permettent plus tellement l'installation de nids, parce qu'on a arrêté les avant-toits, etc. On en construit moins. Donc quand on peut le faire, il faut vraiment les garder, voire même en installer des artificiels pour que les hirondelles reviennent et elles mangent les insectes. Enfin, c'est vraiment très très important d'en avoir.
Bon, il y a des panneaux sur des arbres, il y a des panneaux sur les hirondelles, on vient d'en parler, les jardins, etc., le cimetière. Parlons-en un petit peu de ce cimetière d'ailleurs. Espace de biodiversité. Quand on y réfléchit deux secondes, ça tombe sous le sens. C'est un de ces îlots de fraîcheur, hein. C'est un espace
Absolument.
De nature.
Absolument. Et c'est vrai que nous, on a aussi décidé de mettre un panneau dans le cimetière, parce que les cimetières, en tant qu'espace, ont une image ou une connotation qui est parfois un peu négative dans l'image des gens, ce que je peux comprendre. Mais ça reste un lieu extrêmement calme qui permet à la biodiversité de s'épanouir, qui permet des fleurs, des pollinisateurs un peu partout.
Et qui, pour autant qu'on respecte la
bien
sérénité
sûr,
des
bien
lieux,
sûr.
Est toujours ouvert, hein, à la promenade.
Tout à fait, et qui permet aussi à des familles, l'été quand il fait très chaud, d'aller pique-niquer sous les arbres, etc. Donc finalement, c'est vraiment un espace qui a une fonction sociale très forte, mais une fonction de biodiversité aussi.
Bon, ben merci pour cette rencontre dans un havre de paix, avec quand même un train d'un côté et une souffleuse à feuilles de l'autre, mais c'est ça la ville. Jeanne
Tout
Serrault.
À fait.
Merci à vous. Je rappelle
merci
les dates, hein, de cette fête de la nature. Donc c'est du 22 au 26 mai, le sentier didactique de Vevey fait l'affiche, hein, et il sera inauguré à cette occasion-là, puis ensuite à disposition de la population pour la longue durée. Merci.
Tout à fait, merci beaucoup.